On est de retour à l'émission Nageurs sur les ondes de Boulevard 102.1, midi 44. Nous allons aller rejoindre Christine Saint-Pierre, ex-ministre libérale, dans quelques minutes concernant justement cette démission imminente de Pablo Rodriguez. Petite notion de sport avant de passer aux manchettes. Vous rappelez que le Canadien a perdu 4-1 hier contre les Flyers de Philadelphie. C'était le jeune gardien Jacob Fowler devant le filet. Il a complètement gaffé sur le troisième but, laissant la rondelle libre derrière le filet à Matvei Michkov, qui l'a justement refilé à Bobby Brings, qui a marqué son 9e but de la saison. Ça en était cuit pour le Canadien. Prochain match du Canadien à domicile contre les Blackhawks de Chicago. Ça va se dérouler jeudi soir sans Connor Bedard, la vedette des Hawks, qui est blessée pour 2 semaines, blessure à l'épaule. Et par la suite, c'est un duel en fin de semaine contre les Penguins de Pittsburgh, samedi au Centre Bell, dimanche à Pittsburgh. Donc, des matchs importants qui vont suivre pour le Canadien de Montréal. Normalement, Jacob Debèche devrait être devant le filet jeudi.
Si vous me permettez d'aller court sur Pablo Rodriguez, il va démissionner. Alors, il est en rencontre à 14h avec les siens, donc ceux du Parti libéral, pour fort probablement l'annoncer. Mais sa décision est prise, ça a coulé dans les médias avant son annonce. Il va démissionner dans quelques heures. Alors, après 14h, il y aura un point de presse. On spécule, mais il devrait faire l'annonce et quitter ensuite. On va suivre ça avec grande attention. On est déjà rendu à se demander, bon, qui peut prendre sa place? On en parle un peu plus tard. Pas d'entente bâclée. Il y a les médecins spécialistes qui veulent que Québec ouvre ses coffres. Bon, vous savez, entente avec les omnipraticiens, mais les médecins spécialistes, eux, veulent pas plier. Ils veulent, oui, régler la chose, mais pas à tout prix avant les fêtes et certainement pas avec n'importe quoi dans le dossier. C'est une lettre qui a été envoyée à ses membres, le président de la Fédération des médecins spécialistes, le docteur Vincent Oliva, qui a promis de continuer à talonner le gouvernement là-dessus. Ils ne sont pas prêts à abdiquer, ils veulent s'entendre. Là est la nuance. Je peux vous parler également d'une nouvelle qui est sortie dans les dernières minutes, en fait, la réforme du Ranceau des loyers en vigueur dès le 1er janvier. Je vous explique, c'est dans le Devoir, la nouvelle méthode de calcul des hausses de loyers sera appliquée dès le 1er janvier. Alors, cette méthode de calcul-là a été implantée par France-Hélène Duranceau. Ça, c'était à l'époque où elle était ministre de l'Habitation et ça a été vivement dénoncé par les associations de défense des locataires. Et maintenant, le nouveau calcul, il est plus simple. Il est basé sur une moyenne de l'indice des prix à la consommation de façon générale sur 3 ans. L'autre modification, c'est que ça ne va pas toucher n'importe où, n'importe comment, mais ça va aussi toucher les appartements rénovés. Donc, à partir du 1er janvier, les propriétaires qui font des rénovations vont pouvoir transférer la facture au locataire en se basant sur un taux fixe au lieu de varier en fonction de l'économie. Hein, la hausse est fixée à 5 % du montant par année. Bref, ce sera amorti sur 20 ans. Petite nouvelle d'ambiance. Une chanson a réussi à se hisser au sommet du Billboard Global 2000,
hey,
comme étant...
une vieille chanson!
Oui, comme étant la chanson mondialement la plus importante.
Oh! C'est prélude de temps des fêtes!
Au sommet du classement Billboard Global, c'est devenu un phénomène mondial. C'est le classement des chansons les plus populaires mondialement. Ça vient de sortir. Alors, Last Christmas de Wham! Ça leur a pris plus de 40 ans, près de 40 ans là, après la sortie.
Le George Michael là-dedans, hein?
Oui, c'est la chanson de George Michael.
Hey, je te dis, George. C'est donc bien plaisant. Merci, Pascal CV, de nous faire vivre le temps des fêtes. Et d'ailleurs, si vous voulez nous envoyer, 418-971-1021, envoyez-nous vos tunes du temps des fêtes. Là.
Écoute, j'ai pas choisi que ça soit Last Christmas de Wham. Ça aurait pu être une chanson de Rob Zombie, mais c'est
exactement
pas le cas. Ça tombe juste bien.
Peut-être pour une dernière journée dans l'actualité, Pablo Rodriguez sera sur toutes les lèvres. Somme toute vraisemblance, il va rencontrer son caucus cet après-midi à distance à 14h et par la suite annoncer sa démission. On va justement parler avec l'ex-ministre libérale de la culture, conditions féminines et des communications, Christine Saint-Pierre. Madame Saint-Pierre, comment allez-vous?
Ça va bien. Ça va bien. Moi, de mon côté, ça va bien.
Excellent. Oui, exactement. Madame Saint-Pierre, vous aviez été une qui avait sur nos ondes, notamment la semaine dernière, puis je vous ai entendu également à l'émission de Mario Dumont sur LCN. Vous aviez critiqué le leadership de Pablo Rodriguez. Donc, est-ce une bonne nouvelle pour le Parti libéral du Québec que la démission imminente de M. Rodriguez?
Bonne nouvelle. J'utiliserai pas ce terme-là, mais je pense que ça va être un soulagement parce que c'était devenu intenable et le Parti libéral du Québec, les instances avaient de la difficulté à gérer cette situation-là. Le chef lui-même avait de la difficulté à gérer cette situation-là et l'organisation du parti était complètement paralysée là parce que dans un parti politique, il faut travailler au recrutement de candidats-candidates, il faut préparer le programme, il faut également préparer la campagne électorale, faire du financement. Ce sont des tâches qui sont incontournables là, à la veille d'une campagne électorale. Alors, c'était rendu très, très, très difficile pour le parti lui-même.
Mais des fois, on a de la misère à trancher au niveau du parti lui-même et de la personne qui représente le parti. On commence à comprendre et où il y a quand même des rumeurs comme quoi, c'est même pas Pablo Rodriguez, ça pourrait être en dessous de lui. Donc, le parti reste le même si Pablo démissionne. Là, on peut prendre cette situation-là, mais le mettre aussi plus globalement. Est-ce vraiment le visage du leader qui fait le parti?
Ben c'est la tâche colossale qu'aura à faire le parti, c'est-à-dire de faire la distinction entre les enquêtes qui se tiennent, il y en a plusieurs, et qui tournent toutes autour du leadership de Pablo Rodriguez, de sa campagne, de son entourage, et le parti lui-même, parce que le parti a fait beaucoup de travail pour se refaire une image, regagner la confiance des militants, des militantes, regagner la confiance du public, et le parti, bien, il doit faire la démonstration qu'il est capable de reprendre les rênes et de nommer. En fait, il va falloir aussi que quelqu'un qui vienne prendre la tête du parti. Cette personne-là, ben, elle a une tâche énorme, effectivement, c'est-à-dire mettre de l'ordre dans le parti, faire en sorte qu'il y ait un programme électoral crédible et aller proposer aux Québécois et aux Québécoises une alternative. Et ça, c'est énorme. Et vous avez raison. La personne qui va incarner ça, ben, elle a un énorme travail à faire. Énorme travail parce que dans l'opinion publique, que l'on veuille ou non, l'image du parti est entachée. Même si les faits démontrent que ce n'est pas le parti lui-même qui est sous enquête, mais la campagne au leadership et de tout ce qui a entouré la campagne au leadership de Pablo Rodriguez, dans l'opinion publique, on ne fait pas nécessairement la différence entre les deux. Et c'est ça qui est difficile aussi pour ceux qui sont au parti, les députés et ceux qui militent.
Quels sont les apprentissages que le Parti libéral doit faire de cette expérience-là? Parce que ça a quand même été un vote très serré. Pablo Rodriguez est passé en vrai 52%. Et j'ai toujours eu la certitude qu'il est passé parce que c'était le plus populaire d'un sondage. Mais c'est pas nécessairement le plus populaire d'un sondage à une date X qui devient nécessairement le meilleur chef pour une campagne électorale.
Vous avez tout à fait raison. Moi, lorsque je posais des questions, moi, je me suis pas affichée pour aucun des candidats au leadership, et alors je pouvais poser des questions un peu partout. Et lorsque je posais des questions sur pourquoi Pablo Rodriguez, les personnes qui l'appuyaient me disaient c'est parce qu'il a la plus grande notoriété. Même Marois Ritsky me disait c'est l'homme de la situation, il a de la notoriété, il a de l'expérience. Et moi, j'avais comme un doute, c'est-à-dire je me disais on peut pas nécessairement baser le choix d'un nouveau chef sur sa notoriété, il faut qu'on base le choix du nouveau chef aussi sur qu'est-ce qu'il propose comme vision du Québec.
Sur ses compétences aussi.
Mais les compétences, ben ça, il a été quand même une vingtaine d'années à Ottawa, quand même été à la tête de plusieurs ministères, était l'organisateur en chef de Justin Trudeau, qui a quand même gagné avec une forte victoire en 2015. Alors là-dessus, je pense que les gens se disaient, ben c'est quelqu'un qui est capable d'organiser le parti, capable de conduire le parti aux prochaines élections. Mais l'élément aussi était, c'est lui qui a la plus grande notoriété dans tout ce qu'on a devant nous. Et il y en a qui ont voté en fonction de cela. Maintenant, aujourd'hui, bon, on voit que ça va être, en fait, c'est difficile là, pour lui. Là. C'est quand même un être humain. Là. Pablo Rodriguez, c'est un gars que moi, j'aime beaucoup personnellement. Je l'ai côtoyé dans mes anciennes fonctions de ministre des Relations internationales. C'est un gars charmant. Là. Et son intégrité, à lui... n'est pas remise en jeu, mais peut-être un peu de jugement, parce que lorsqu'il a été question de lorsque c'est sorti dans les médias que c'est un local qui appartient à son épouse, qui a été loué pour sa campagne, il ne voyait pas de problème. Et ça, c'est que son jugement junior en politique va dire ben voyons, on fait pas ça, là, ça ne se fait pas.
Ça surprend tout le monde. Ça
surprend tout le monde.
Mais dans les conseils, je veux faire du pouce sur ce que mon collègue vous a demandé. Je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que le Parti libéral va devoir accepter comme apprentissage de tout cela?
Ben, peut-être que le Parti libéral va devoir se dire, bien, il y a une campagne électorale qui s'en vient. Peut-être que la victoire est pas à portée de main. Il va falloir que le parti, je pense, soit très réaliste, parce que chez les francophones, c'est terrible, là. Et il avait réussi à monter à 17%. Vous allez me dire, c'est pas un miracle, mais quand même, à 17%, là, c'est vraiment redescendu à 10. Alors, il y a toute une reconstruction qui doit se faire auprès de l'électorat francophone. Puis la prochaine campagne électorale, bien, si la tendance se maintient, c'est le Parti québécois qui va prendre le pouvoir, et ça veut dire qu'il va y avoir un référendum. Alors, parce que Paul Saint-Pierre Plamondon n'en démord pas, il tient son plan de match, il va y avoir un référendum. Alors, la question que beaucoup de militants se posent, puis j'ai échangé avec beaucoup de monde au téléphone, c'est qui sera le porteur ou la porteuse du ballon du camp du non?
Ouais, ben là, ça, c'est officiellement à se questionner. Puis même au niveau du Parti libéral, comme là, TVA Nouvelle vient de sortir une nouvelle comme quoi les candidats qui avaient terminé deuxième, troisième derrière Pablo Rodriguez pendant l'élection du chef libéral, ça, c'est en juin dernier, là, veulent une nomination. Mais là, le scénario semble peu probable. C'est ce qu'a souligné les sources de TVA, parce qu'on dit le nom de Marc Tanguay circule également. Cette fois, l'ex-chef par intérim pourrait bel et bien plonger. Est-ce qu'il a pris goût à ça, au leadership, tiens, du Parti libéral?
Marc Tanguay est un ancien président du Parti libéral et c'est un bon parlementaire. Il a été aussi à la place, en attendant la nomination du chef, là, il a été le chef parlementaire et automatiquement le chef du parti aussi. Alors, ça ne me surprend pas qu'il se pose des questions, à savoir est-ce que je pourrais tenter ma chance. Il a fait un très bon travail comme chef parlementaire. Alors, moi, je pense que il devrait y avoir une course, parce que même si elle est courte, là, c'est pour donner la chance aux militants de s'exprimer et de dire, voici, c'est en cette personne. Vous allez me dire, ils l'ont fait là, il y a 6 mois, puis ils n'ont pas choisi le bon cheval, là, mais permettre aux militants de s'exprimer, si c'était le parti lui-même, parce que la Constitution le permet, de nommer un chef, comité exécutif pourrait nommer un chef. Peut-être que les militants diraient, bien, c'est un petit peu autoritaire, là, vous faites le choix à notre place, ou il pourrait y avoir un autre scénario, c'est-à-dire c'est pas le parti qui donne cette marche à suivre-là, mais que les personnes qui s'intéressent au leadership pourraient dire, bon, ben, on va se rallier tout le monde ensemble derrière une personne, mais selon les informations qui sortent, les camps n'ont pas l'air d'être en mode négociation ou discussion, ils ont plutôt l'air d'être en mode attaque, on se met sur le terrain, puis on veut aller chercher la mise. Alors, il y a toutes sortes de questions qui se posent, ça va vraiment être un temps des fêtes au cours duquel ça va être très actif, je pense, dans les officines du parti. Puis les Québécois et les Québécoises vont en discuter beaucoup, j'imagine, autour des repas en famille.
Madame Saint-Pierre, je termine cette entrevue en vous posant cette question-ci. Parmi les apprentissages, est-ce qu'on a appris qu'on ne parachute pas un candidat du Parti libéral du Canada au Parti libéral du Québec?
Ben, ce qui a été parachuté, je pense pas. Je pense que c'est lui qui s'est...
Oui, c'est vrai, il avait fait une belle traversée du pont.
C'est quand même un Québécois, mais moi je pense que c'était peut-être les méthodes, je dirais pas les méthodes de faire, mais c'est une autre game, la politique provinciale. La façon de travailler aussi des journalistes n'est pas la même. J'ai travaillé aux deux places, Ottawa, Québec, quand j'étais journaliste. La façon de travailler, la façon dont les ministres gèrent la communication avec les journalistes, c'est rien à voir. Ils sont beaucoup plus à distance à Ottawa qu'à Québec, où ils doivent vraiment répondre là maintenant, là tu réponds à la question là, tu sais. Alors c'est pas la même façon. Alors peut-être que ça, il y a eu un peu dans sa tête à lui, il a peut-être pas compris le fonctionnement de la comment ça se passe à l'Assemblée nationale. Il va falloir que tout le monde décante tout cela, analyse tout cela, et peut-être que le principal intéressé aussi va faire une sorte d'examen, puis il va expliquer qu'est-ce qui a pas marché dans son affaire là, parce que manifestement il ne s'est pas bien entouré. Et je termine là-dessus sur la question de financement. La règle d'or, c'est de s'entourer de quelqu'un qui va vraiment là surveiller le moindre détail, parce que on ne peut pas laisser la moindre brèche entrer dans une campagne au leadership. Puis c'est arrivé là. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont pas été aux aguets, qui n'ont pas surveillé.
Ouais. Merci beaucoup. Hein. Ça nous a fait plaisir de vous parler encore une fois aujourd'hui.
Ça me fait plaisir de vous parler.
Madame Saint-Pierre, merci. Au revoir. Christine Saint-Pierre, ex-ministre Conditions féminines, culture et communication au niveau du Parti libéral du Québec. Course, rappelons-le, à la chefferie.
Oui.
C'était Pablo Rodriguez en premier.
Oui.
Charles Milliard en deuxième, qui avait devancé de très près Carl Blackburn au premier tour pour râler au deuxième tour contre Pablo Rodriguez. C'était à peu près 1% de différence. Finalement, Charles Milliard a perdu par 4% sur Pablo Rodriguez. Donc, ça nous donne deux candidats qui étaient dans la course à la chefferie très crédibles, Milliard et Blackburn. Deux gars issus du milieu des affaires, ex-président du conseil du patronat pour Carl Blackburn, ex-gestionnaire dans le milieu des pharmacies pour Charles Milliard.
Deux pro-régions, les deux ont fait le tour des régions, mais à côté.
Exactement. Deux camps qui ont ça, s'aiment pas. T'sais, Blackburn est arrivé parce que Milliard avait fait certains commentaires que des gens, il y a eu des chicanes. Et là, arriverait Marc Tanguay dans cette course-là.
Je sais pas ce que je pense de quelqu'un qui se présente comme intérimaire, puis qui ensuite fait une course au leadership. Là, c'est pas collé. Il y a quand même eu une autre course au leadership. Mais je vais prendre l'exemple de Pascal Bérubé.
Vas-y donc.
Il est demandé au Parti québécois, mais demandé, recul de quelques années, avant que Paul Saint-Pierre Plamondon soit élu chef du dit parti, il était demandé. Ouais. Il l'a jamais souhaité. Peut-être à un moment, mais il l'a jamais fait. Il était bien dans l'intérim du Parti libre, bien dans Matane Matapédia. Ça a toujours bien fonctionné. Il dessert ce territoire en passant immense avec des votes puis des pourcentages de votes toujours extrêmement hauts. Il est apprécié, il fait sa job.
Exactement.
Il n'aurait pas pu se présenter après avoir été chef intérimaire du Parti québécois à un moment donné. Comme
non, de toute façon, quand quelqu'un prend l'intérim, c'est parce qu'il n'ira pas.
Il accepte de ne pas aller à la chefferie.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que Marc Tanguay avait pris l'intérim à l'époque à la place d'une Marois Risky ou d'un Monsef Déragé, parce que Marois Risky et Monsef Déragé réfléchissaient à la possibilité de se présenter.
Exact. Donc, moi, il y a une affaire que j'analyserais là-dedans. Est-ce que Marc Tanguay risque de se faire élire à la chefferie?
Ouais.
Point d'interrogation. Parce que c'est pas parce qu'il a pris goût et que l'intérim s'est bien passé pour Marc Tanguay que ça va bien se passer au leadership d'une équipe à la tête
c'est
d'un parti.
Sûr.
Ça peut être complètement biaisé.
Par contre, compte tenu que le Parti libéral, tu sais, là, je pense de l'autre côté de la médaille, vient de vivre une chicane, une crise interne comme ils n'ont jamais vécu. Ils ont besoin d'un rassembleur. Vu que le clan Milliard puis Blackburn sont chacun sur leur position, c'est peut-être là que Marc Tanguay peut venir tirer son épingle du jeu.
Un genre d'agent neutre là-dedans.
Ouais.
J'entends.
Je suis certain qu'il y a peut-être des gens dans le caucus qui disent « Hey là, Marc, quand tu nous gérais, ça allait bien, puis on montait dans les sondages, puis il y avait une unité. Or, pogne donc le leadership. »
On va acheter la paix. L'affaire, si ça se passe comme ça, parfait, ça lui met un potentiel de réussite de plus dans la poche.
Oui.
Mais souvent, ce qui se passe avec les chefs intérimaires, c'est qu'il y a un genre de laisser aller au sein du parti. Hey, il est là, il prend l'intérim, il est donc bien fin de le faire. En plus, c'est pas un adversaire à la course au leadership parce qu'il se présentera pas à la tête. Fait qu'il y a souvent des passe-droits pour un chef intérimaire.
Je suis d'accord.
Il y a plus d'appréciation.
Ouais, il est pas dangereux,
chef. Il est pas dangereux.
Ouais, c'est un bon point, ça.
Ben, souvent, si un chef intérimaire, c'est qu'il y a une petite crise. Mm-hmm. Fait qu'on est redevable envers celui qui a pris l'intérim.
Ouais.
C'est pour ça que je dis que ça sera pas le même portrait s'il se présente à la chefferie.
C'est sûr.
Mais effectivement, il est plus neutre que l'un des deux soit Blackburn et Milliard, pour lesquels ça a autodivisé le parti. Là.
Tu sais ce qu'on va faire, par exemple? Marc Tanguay, nous toujours ça, j'en avec nous autres à Boulevard.
On va l'appeler?
Ben, on va essayer d'avoir une petite entrevue avec Marc Tanguay. Hein? Marc Tanguay. On va vous laisser gérer ça, M. Tanguay, aujourd'hui. Là. On va peut-être vous laisser respirer demain, mais vendredi, venez donc en onde avec nous. L'invitation est lancée. Courte pause, Pascal. Par la suite, on va revenir avec quelques manchettes, mais je veux surtout qu'on parle de la fille du réalisateur qui s'est fait assassiner avec sa femme par son propre fils, donc c'est-à-dire Romy Rayner, parce qu'elle avait sur Instagram posté des photos début décembre de vacances en famille dans le sud où sont en train de se baigner, puis la vie est belle. Et là, sous ces publications-là, elle reçoit des commentaires haineux.
Des menaces, des commentaires
Des menaces
haineux.
Des partisans de Donald Trump.
Oui.
Je veux qu'on en parle au moins un bon 4-5 minutes juste pour démontrer aux gens à quel point c'est dangereux, tes propos haineux.
Je suis d'accord. Puis en plus, envers quelqu'un qui n'a rien à voir avec son... Tu sais, c'est son père, là. C'est son père, un homme assassiné. On parle d'une tragédie. Un des suspects, c'est son propre frère. Donald Trump, qui est déjà en train de se faire lancer des roches parce que les propos qu'il tient suite à la mort tragique de quelqu'un sont inappropriés.
Exactement.
Et elle ramasse en plus la vague de front.
En plein ça. À quel point, lorsque tu es un leader d'une communauté, d'un pays, d'une province, tu te dois justement d'avoir des propos qui sont toujours respectueux envers les gens. Donc, on parle de ceci après cette courte pause à Boulevard 102.1 à l'émission d'En Jase.